C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandier. Auteur, Édouard Manet, 1832-1883. Peintre, français, républicain, hétérosexuel, rentier. Œuvre, le torero mort vers 1864, National Gallery of Arts. Personnage, le torero mort. L'art ne n'est pas de l'observation de la nature, comme le disent les naïfs ou les gens qui n'en ont aucune notion. L'art naît de l'art. Je ne veux pas dire par là que les artistes s'imitent les uns les autres, mais que chacun d'eux exprime une énergie dans laquelle les uns ou les autres se reconnaissent. Et c'est ainsi que Manet, qui n'avait jamais vu de corrida, s'est sans doute inspiré de tableaux de Goya ou de Velázquez pour peindre ses premières corridas et ce torero mort avant même d'aller en Espagne. A-t-on besoin d'aller en Espagne pour peindre des choses espagnoles? De descendre dans une mine pour décrire une mine? Manet a dit « Cultivez votre mémoire, la nature ne vous donnera jamais que des renseignements ». C'est très exact si on remplace le mot « mémoire » par le mot « imagination ». L'imagination est une spéculation, pas une reproduction. Ce que la vue des choses apporte pour elle d'unique, c'est sans doute le détail révélateur, que tout le monde ne sait pas voir. Pour cela, il faut de l'imagination. Stendhal, qui, comme tous les hommes d'un génie allègre, n'avait pas d'influence, a inventé le mot d'espagnolisme et il n'a pas été suivi. La chose était pourtant bien là. Paris, qui dévore des pays étrangers les uns après les autres pour rafraîchir son esthétique, sortait d'une mode d'anglomanie et tout n'était plus qu'Espagne. Prosper Mérimée, Alexandre Dumas, Théophile Gautier et avant eux, Victor Hugo, n'est-ce pas? Puisque c'est un sujet espagnol, Hernani, qui a fait se batailler Paris en 1830. Enfin, sujet espagnol, mais genre français. De la même façon, le barbier de Séville avait été une insolence française. Le torero mort de Manet est-il d'abord espagnol ou d'abord Manet? J'ai récemment lu que quand il aimait bien quelque chose, Manet disait « ça a son chic ». Cela m'a procuré un plaisir enfantin parce que j'ai longtemps dit « ça a son chic » dans la même acception sans savoir que Manet l'avait fait. Une bonne vie, c'est peut-être ça, l'aspiration à l'art et des points de contact avec les fantômes. Je ne sais plus la première fois que j'ai vu un Manet. Une reproduction, plus que probablement. Le format n'était nécessairement pas le bon, les couleurs devaient être approximatives, la patte être écrasée et lissée par la photographie, peu importe. Quelque chose m'a touché, qui m'a été confirmé chaque fois que j'ai vu un Manet. Cet homme est un génie, je l'aime. Et il en est un jusque dans les plus petites choses. Trois asperges de Manet peintes de chic, c'est meilleur qu'un vaste tableau appliqué de Gérôme. Je ne pense à Manet qu'avec plaisir. C'était non seulement un grand peintre, mais un homme charmant. Théodore de Banville a écrit ses non moins charmants vers à son sujet. Ce riant, ce blond Manet, de qui la grâce émanait, gai, subtil, charmant en somme, sous sa barbe d'Apollon, eut de la nuque au talon un bel air de gentilhomme. Qui est le torero mort? Pour en parler, je reçois Stéphane Guégan, conservateur au musée d'Orsay, qui publie ces jours-ci un Van Gogh en 13 questions chez Azan. Stéphane Guégan, à quoi ressemble le torero mort?
C'est un gisant moderne, un gisant en habit de lumière, un torero. Il a la culotte courte, les bas blancs scintillants, la ceinture rose, une épée à sa droite, une main portée sur le cœur, une tache de sang. Il est mort. Manet l'expose, vous l'avez dit, en 1864, sous un titre qui est d'ailleurs celui qui décrit le mieux la première composition. On en reparlera, c'est un tableau qu'il a découpé, recomposé sans cesse. Épisode d'une course de taureaux. Et puis cette œuvre qui d'ailleurs va connaître un certain succès, Gautier en parle, et d'autres, frappés par à la fois sa théâtralité et son anti-théâtralité. Aucune sentimentalité, aucun pathos, la mort est là, irréductible, mystérieuse, belle et presque sensuelle. D'une certaine manière, Manet, ici, donne sa version du Marat de David. Il y a quelque chose de doux. Il y a quelque chose d'apaisé dans cette image. Bref, Manet, l'insatisfait de nature, retourne au tableau très vite, quelques mois plus tard, et découpe la toile pour ne garder que sa partie inférieure, que l'homme mort.
On va y revenir. Sur la cravate de soie, vous l'avez évoqué, il y a un filet de sang et aussi, sauf erreur, une toute petite tache rouge sur le sol, qui est d'ailleurs à peine un sol, qui est un brin uni. Et au lieu de dramatiser, Manet est pur. Est-ce que cette peinture n'est pas une litote ?
Cette peinture est une litote. On accède, dit Georges Bataille en 1954, au silence absolu. C'est même une image ascétique de la mort. La mort était exemplaire chez David, elle était convulsive, dramatique chez les romantiques. Elle est simplement là, comme un mystère insondable et presque attirant. Et c'est la raison pour laquelle Manet va dépouiller sa composition de toute anecdote. Il ne va conserver que le cadavre. Et ce cadavre, presque raide, ce cadavre est fascinant. Il est à l'image même de la peinture de Manet, qui va à l'essentiel. C'est une figure sacrificielle, mais c'est aussi la métaphore des sacrifices que s'impose l'artiste.
Il faut dire, vous l'avez évoqué, que c'est donc un tableau découpé d'épisodes d'une course de taureau, et le cadavre, tel que nous le voyons, pas tout à fait tel que nous le voyons, prenait tout le premier plan devant un tout petit taureau, derrière lequel d'autres toreros semblaient avoir une taille, disons, normale, et ça a été un concert de critiques et de ricanements. Est-ce que c'est à la suite de ça que Manet a découpé le tableau ?
Exactement, car contrairement à sa réputation, Manet est à l'écoute des critiques de son temps, il en fait son profit. Il ne garde que la partie inférieure, celle que désigne Gautier comme la meilleure. Et à cette époque-là, Manet est très proche de Baudelaire et donc de Gautier. Et donc, il découpe, ne garde que la partie la plus dramatique, pour employer un mot qui est le sien, car quand Manet parle de la corrida, il distingue la partie scénique, au fond, les spectateurs, le brouhaha, et de la partie dramatique, c'est-à-dire la mort. Mais une mort non plus subie, une mort acceptée, car tout le jeu de la corrida, qui va fasciner Michel Léris et Georges Bataille, c'est la mort, sa mort avec laquelle on joue.
Alors je crois que ça a été vraiment une idée de génie de le découper, parce qu'il a resserré la focale en quelque sorte, et révéler une nouvelle façon de regarder, non pas un torero, mais la mort même. Je voudrais dire d'ailleurs, parce que ça n'est pas tout à fait négligeable, les dimensions du tableau. Le tableau initial, épisode d'une course de taureau, mesurait 126 cm sur 168, tandis que le torero mesure 76 cm sur 150. Comment a-t-il retravaillé le tableau ?
Autant qu'on puisse le savoir, ce tableau a été radiographié. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il a, à la manière d'un close-up, vous l'avez dit, resserré la focale autour du corps, élaguant tout. Il a même modifié la couleur du sable. Gautier parle d'un sable jaune sur lequel tranche donc la figure noire et rose, pour parler comme Baudelaire. Il a assombri le sable de la reine pour donner une forme de fond d'or paradoxal. Ce tableau est un peu iconique, comme on le dirait aujourd'hui, il est un peu religieux, il est nécessairement christique. N'oublions pas qu'en 64, Manet l'expose avec le Christ aux anges de New York. Et donc, il appelle l'attention sur le parallélisme entre le Christ et le torero mort. Et ce fond d'or devient noir.
Je crois qu'il a aussi rhabillé le torero, il l'a habillé en noir dans la première version. Vous me direz si je me trompe, il n'était pas en noir.
Alors ça, là vous m'apprenez quelque chose, vous voyez que mon expertise a des limites.
Quoi qu'il en soit, quelle que soit la couleur du costume, ce qui est certain, c'est qu'on est passé d'un spectacle tapageur comme une corrida à quelque chose qui est une épure.
Oui, une épure, un silence. C'est quelque chose qui n'a d'équivalent que, oui, la peinture de David, la peinture de Philippe de Champaigne, mais c'est un théâtre sans pathos, c'est la mort ordinaire aussi. Votre émission porte sur les rapports entre personnes et personnages. Nous ne connaissons pas le modèle de ce tableau.
Mais j'allais vous poser la
question. Ce que l'on peut imaginer, au regard du chanteur espagnol de 1861 qui ressemble bien à un modèle espagnol, c'est qu'il est allé chercher quelque chose qui réalisait son idéal du torero espagnol. Et donc peut-être un modèle espagnol, mais un modèle espagnol rencontré à Paris.
En changeant de taille, il a changé le titre, parce que nous continuons à l'appeler le torero mort, en tout cas moi, mais Manet l'a appelé l'homme mort. Même s'il reste un torero, ce changement de nom révèle sans doute l'intention généralisatrice de Manet.
Absolument. On passe presque de l'espagnolade à l'essentiel, à l'universel, plus il découple et plus le tableau prend une dimension qui se débarrasse de tout pittoresque. Rappelons-nous le goût espagnol de cette époque-là. Manet n'est pas le seul à y souscrire. Simplement, il le fait mieux que tout le monde. Il le fait avec sa poésie et son art de la concision, de la sobriété absolue.
Il faut dire aussi que je crois que c'est un motif, je veux dire celui des corps qui envahissent le premier plan, que Manet aime bien. On le retrouve dans plusieurs tableaux, en particulier dans Sur la plage, qui est un tableau ultérieur de 1873, où sa femme, au premier plan, occupe carrément pratiquement toute la moitié du tableau.
C'est un mode de composition qui lui est familier, et le torero mort, qui deviendra l'homme mort en 1867, aura dans l'œuvre de Manet des suites, puisque après la Commune, il intitulera « Guerre civile, une lithographie » qui finalement importe le modèle du torero dans un contexte politique qui est celui de l'après-Commune.
Alors, si je me trompe pas, la mise en scène est un peu celle du torero mort, sauf qu'il n'a pas tout à fait la même orientation, et qu'il y a une chose qui me frappe beaucoup et qui change complètement l'intention, c'est que dans un coin de la lithographie, on voit dépasser les deux pieds d'un autre soldat mort qui donne un effet un peu presque comique à la chose, comme peut être comique la mort dans son grotesque.
Vous avez raison, Guerre civile est plus proche de La liberté guidant le peuple de Delacroix. Manet est plus bavard que dans le tableau espagnol, parce que le médium l'impose. Guerre civile, c'est une gravure, et il se donne la liberté d'y glisser quelques détails anecdotiques qui inscrivent véritablement l'image dans un contexte politique. Torero mort, c'est vraiment son Christ. Antonin Proust, qui n'a rien à voir avec Marcel, mais qui a été l'ami très tôt de Manet.
Qui a écrit un très beau livre sur lui, de très beaux souvenirs sur Manet.
Très beaux souvenirs, et qui sont en grande partie fiables. Parle d'abord de l'obsession qu'avait Manet pour l'image du Christ souffrant. Manet aurait dit que son obsession ultime, c'est de peindre enfin un Christ sur la croix. D'une certaine manière, ce tableau, il l'avait déjà peint. C'est le torero mort.
D'ailleurs, où se trouve la corrida, le tableau découpé? Est-ce qu'il a été, il l'a jeté? Est-ce qu'il l'a...
Alors nous conservons, à vrai dire, deux fragments. Le plus célèbre, c'est celui dont nous parlons, qui est à Washington depuis 1942. L'autre fragment est à la Frick Collection. C'est précisément un morceau des arènes. Et puis, on y voit également deux picadors. Et ce qui est très frappant dans le fragment de la Frick Collection, c'est qu'il éclate de couleurs vives. C'est précisément le symétrique du torero mort.
La mode de l'Espagne dont je parlais dans mon introduction existait déjà depuis plusieurs années et avait été revivifiée par l'impératrice Eugénie, dont on sait bien qu'elle était espagnole et qui avait fait venir les corridas en France. La première a eu lieu à Bayonne en 1853, et puis des troupes de danse espagnole venaient à Paris, et on sait que Manet a assisté à des spectacles de danse espagnole.
Et Manet jette le pont entre les deux générations de l'hispanisme. Vous avez évoqué la première, c'est celle des romantiques, qui s'est aussi formée au musée de Louis-Philippe, qui ouvre en 1838, 400 tableaux tout de même, achetés sur les caisses du roi. Et le moment Baudelaire, le moment Eugénie, en 1862, quand Baudelaire parle pour la première fois de Manet, il dit que le génie espagnol s'est réfugié en France. Il pense aux danseurs, il pense aux chanteurs. Manet a été au contact des danseurs, des chanteurs. Il a peint Lola de Valence dès les années 1860, le fameux tableau où Baudelaire voyait scintiller le charme inattendu d'un bijou rosé noir. Et j'ai toujours pensé que le tableau qui correspondait le mieux à cette définition, c'était notre torero, plus que Lola de Valence. Mais pour revenir au spectacle qui font de Paris finalement une sorte de succursale de Madrid, c'est effectivement ces ballets royaux qui viennent se produire sur les scènes parisiennes, soutenus par le couple impérial, mais soutenu par le goût des Français pour l'Espagne. On y voyage. Le voyage en Espagne de Gautier est un best-seller. Manet l'a lu, nous le savons. Carmen, bientôt. Et Mérimée, très proche de l'impératrice, est aussi d'ailleurs le symbole de cette fusion entre le monde politique et le monde artiste, qui est passionnant.
Manet n'est allé en Espagne que l'année suivant ce tableau. Et dans une lettre à Théophile Torre, Baudelaire dit sans doute très justement: on lui a tant parlé de ses pastiches de Goya, car on l'accusait de pastiches et Goya, que maintenant il cherche à voir des Goya.
Manet, qui a un peu voyagé, d'abord en Italie et puis en Europe du Nord, en Europe centrale, a peut-être rencontré des Velázquez et des Goya. Et il y en a quelques-uns dans les collections parisiennes, il y a quelques-uns au Louvre même. Mais il a besoin, non pas finalement d'une source d'inspiration, il a besoin d'une vérification. Et au Prado, les 40 ou 50 Velázquez l'ont stupéfié. Il le dit dès sa correspondance madrilène, j'ai trouvé en Velázquez la réalisation de mon idéal en peinture, et il explique pourquoi, la concision, la sobriété, l'impact visuel, la capacité à tout dire avec le moins finalement de peinture, le moins de forme, et d'une certaine manière, la capacité également qu'avait Velázquez à trouver la dimension de l'universel dans le prosaïque.
Alors, ce qui est amusant, c'est que Manet n'a pas été déçu par sa propre imagination, si je puis dire. Dans une lettre à Baudelaire, écrite toujours d'Espagne, il dit « un des plus beaux, un des plus curieux, un des plus terribles spectacles que l'on puisse voir, c'est une course de taureaux ». Et il ajoute, alors qu'il en avait déjà peint une, « j'espère à mon retour mettre sur la toile l'aspect brillant, papillotant et en même temps dramatique de la corrida à laquelle j'ai assisté ».
Il a peint des corridas effectivement plus pittoresques à la suite de son séjour, sans d'ailleurs... c'est pour ça qu'on l'aime, céder à l'anecdotique, sans céder même au tapageur des spécialistes de l'Hispaniolade. Mais il a été frappé par l'aspect rituel de la corrida. Le fait que non seulement on y sacrifie le taureau, mais que le toréador lui-même finalement s'expose à la mort. Il sent, et la littérature de l'époque y insiste, il sent le lien entre... le monde de la corrida, le monde païen, le monde antique, et bien sûr la métaphysique chrétienne. Et tout ça est dans le Toreador. Et c'est la raison pour laquelle on est, je crois, justifié à y voir un Christ moderne.
Nous allons entendre un extrait du Cortège des taureaux ailés, pièce pour orchestre de Maurice Ohanin, par l'Orchestre symphonique du Luxembourg, sous la direction d'Arturo Tamayo en 2000. Stéphane Guégan, on l'a oublié maintenant qu'il a triomphé de manière posthume, mais quand il est apparu, Manet a fait scandale, probablement parce qu'il introduisait du sérieux dans la peinture à la mode de son temps, qui était une peinture à fanfreluche, maquillée, courtisane, dont la vulgarité, à mon sens, a son apothéose dans un tableau acheté par Napoléon III, qui n'était pas une pornographie près, l'ignoble naissance de Vénus de Cabanel. Un personnage aussi allongé, enfin je ferais mieux, je crois, de dire vautré.
Oui, la comparaison s'impose et elle impose aussi de dire qu'effectivement Manet rejette tous ces artifices. Ce qu'il rejette aussi, et c'est bataille qu'il a, je crois, le mieux exprimé dans son livre en parlant de destruction du sujet, c'est que chez Manet il y a du sujet, mais tout ce qui en était jusque-là, les résonances traditionnelles est éliminé. Pas de sentimentalité, pas de pathos. Il n'y a rien de confortable, au fond, et d'aguicheur dans la peinture de Manet. C'est la chose à travers l'imaginaire d'un homme qui, au fond, rajeunit le romantisme. C'est la raison pour laquelle il est si proche de Baudelaire, qui a été vraiment, je crois, son alter ego, et dont il a cherché, le soutien et la reconnaissance.
Enfin, pardon de vous interrompre, Baudelaire, qui n'était pas un esprit très aimable, c'est pas toujours très bien tenu envers Manet. Il y a des phrases assez méchantes de Baudelaire sur Manet dans sa correspondance. N'oublions pas que Baudelaire était un homme qui écrivait des éloges à Victor Hugo et puis qui, 5 minutes après, écrivait à sa mère « J'ai menti, je me suis foutu de ce vieux con ». Et il s'est mis à aimer Manet beaucoup quand Manet lui a prêté de l'argent.
Oui, parce que Baudelaire est un esprit compliqué, parce qu'il n'arrive
Baudelaire
pas...
Baudelaire est un méchant.
Est un méchant, et c'est aussi une partie de son génie, sans doute, d'avoir su reconnaître en lui-même le mal, avant de l'exprimer. Mais Baudelaire est aussi celui qui pousse Manet vers l'extrême de son génie, précisément parce que Manet a le sentiment de ne pas l'avoir convaincu, ne pas avoir réussi à le détacher de Delacroix, de ce romantisme-là. Il y a des cadavres dans la peinture romantique et au théâtre même. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ce tableau nous donne l'impression d'être une figure de théâtre, mais dépouillé de tout ce que les romantiques pouvaient associer à la mort. Pas de narcissisme chez Manet, la chose même, mais dans son aura, je dirais, de poésie sombre. Sans nous donner d'ailleurs le mode d'emploi de l'image. Que penser de ce tableau ? C'est la raison pour laquelle je reviens à ce que vous disiez, il a été si mal compris de ses amis même.
Manet avait beaucoup d'intérêt pour les cadavres. Il a peint un homme mort, il a peint un suicidé. Je crois d'ailleurs, vous me direz si c'est vrai ou pourquoi si c'est vrai, il a retrouvé un de ses modèles pendus dans son atelier. Et dans ce peintre léger, dans le meilleur sens du terme, il y a un sens du tragique. Et d'ailleurs, le tragique est toujours au bord du léger, non ?
Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que cette obsession de la mort, cette présence de la mort est liée au spectacle même de la mort. On le sait, Proust nous le dit, il a été frappé par les morts du 2 décembre 1851. Il y a ce jeune modèle qui se pend dans son atelier de la rue Guyot et qui va donner lieu d'ailleurs chez Baudelaire à ce terrible poème en prose qui est La Corde, dédié à Manet.
Et sait-on pourquoi le modèle est allé se pendre, à part par théâtralité, ou pour se faire aimer, même mort, par Manet ou...
Parce que Manet l'avait corrigé. Manet lui avait reproché de l'avoir volé. C'est une terrible histoire de scrupules. Manet va vivre avec, sans doute, il en parle peu, va vivre avec le souvenir terrible de cette mort qu'il a provoquée involontairement.
Qu'est-ce qui s'était passé exactement?
L'enfant l'avait volé, avait volé dans son atelier, et Manet, bien sûr, le corrige, sans doute durement, et l'enfant se pend dans l'atelier. Baudelaire en a tiré un texte terrible. Et donc, on peut concevoir que Manet ait vécu avec le souvenir de cet enfant dont il avait provoqué la mort. Effectivement, la mort est là, très souvent, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai toujours pensé que Manet était le plus romantique des acteurs de la nouvelle peinture, dans la mesure où il est sans arrêt, où il confronte sans arrêt la mort.
Le romancier et critique d'art Edmond Abou a cru faire un bon mot en disant de notre torero mort « un torero en bois tué par un rat ». Et je voudrais vraiment insister parce que Manet a été injurié presque toute sa vie. Et à la fin, il a lui-même dit, et je le cite, « les attaques dont j'ai été l'objet ont brisé en moi le ressort de la vie. On ne sait pas ce que c'est que d'être constamment injurié. Cela vous écœure et vous anéantit ».
Ça le plonge dans une forme de neurasthénie. On peut le dire, lui qui était romantique. Ce qui provoque chez Baudelaire, le cruel Baudelaire, la fameuse lettre où il lui dit « Vous ne devriez pas vous plaindre, cher ami, parce qu'avant vous, Delacroix, Chateaubriand, Wagner, ont subi les mêmes affronts, la même violence, la même incompréhension. Et donc, dans la décrépitude de votre art, restez le meilleur. » Effectivement, il est le grand refusé. Il est le grand martyr de cette peinture-là, malgré les voix contraires, et très vite, dès le salon des refusés de 1863, il s'est trouvé des critiques pour voir en lui le renouveau de la peinture, mais ils sont rares. Ils sont très rares, et ils n'ont pas suffi, au fond, pour que Manet surmonte ses coups de cafard.
On s'est beaucoup moqué des disproportions du tableau initial, nous en avons parlé, Stéphane Guégan, avant qu'il ne le découpe. Et du coup, je me demande si, bien avant le déjeuner sur l'herbe, Manet n'avait pas eu, dans ce tableau, l'intention de faire sa première atteinte à la perspective, je dirais même son premier attentat contre la perspective, car enfin, personne n'est moins réaliste que ce peintre qu'on classe parmi les réalistes.
Oui, il y a toujours une aura de fiction dans la peinture de Manet. Tout réalisme est subjectif. Ce qui est le propre de Manet, c'est que cette subjectivité s'impose à l'œil. Elle a d'ailleurs déconcerté l'époque. On s'attend à un tableau qui restituerait l'expérience du vécu. Il y a toujours plus chez Manet, ou toujours moins d'ailleurs, en cela qu'il ne donne pas les règles du jeu, il les adopte et les transforme. Vous avez raison, il joue avec la perspective, il joue avec la composition, la décomposition, il joue même avec ce qui était le principe de la peinture d'histoire, qui reposait ou qui se construisait autour de l'acmé. C'est souvent l'après de l'action. Dans le torero mort, ce n'est pas finalement la mort du torero, et même pas son agonie, c'est l'après, c'est ce qu'il reste, ce cadavre dans l'éternité.
Bah, il avait de l'originalité, c'est le crime le plus impardonnable.
Vous avez raison.
C'est un tableau très noir, ce torero mort, au noir pour moi aussi beau que ceux de Van Dyck, et qui a pourtant enthousiasmé le peintre de la couleur la plus profuse qui soit et qui était Matisse. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a une tendance à l'austérité ou qu'il y avait une tendance à l'austérité dans Manet qui a été contrariée par l'apparition et le succès de Degas avec ses danseuses, ses chevaux, ses femmes au tub, etc. Et que Manet est allé vers des sujets plus brillants comme la fameuse serveuse de Bock.
Manet, après 1870, passe à la peinture claire. C'est d'ailleurs ce dont le félicitera Mallarmé. Il est l'homme du plein air. Mais il n'est pas un peintre impressionniste. Il n'expose pas avec eux. Il reste un impressionniste distant. Matisse voit le tableau en 1932, alors qu'il peint pour le docteur Barnes à Philadelphie. Le tableau est à l'époque dans une collection particulière. Il est sous le choc. C'est pour lui le plus beau tableau de Manet. Il est d'ailleurs assez intéressant de noter que les modernes, depuis Huysmans jusqu'à Bataille, en passant par Matisse, ont élu ce tableau comme l'un des plus forts et peut-être même le plus beau de toute l'œuvre.
J'ai assez tendance à penser, Stéphane Guégan, que Manet est un romancier, car pour moi, un bon roman n'est pas une succession d'aventures, mais la présentation de personnages. Et c'est d'ailleurs un romancier, Zola, qui a été merveilleux avec lui, qui a écrit à son sujet « Le sujet est un prétexte à peindre, tandis que pour la foule, le sujet seul existe ». Ça en dit d'ailleurs beaucoup sur Zola lui-même, qu'on réduit bien à temps un romancier de sujet. Il dit ça à propos du déjeuner sur l'herbe, mais on pourrait le dire aussi, évidemment, du torero mort, qui n'est probablement pas un torero mort, qui est peut-être même plus qu'un gisant, qui est peut-être simplement une idée sur le noir.
C'est une idée sur le noir, c'est un tableau qui fait le noir autour du personnage. C'est plutôt au monde flaubertien, si on doit rester sur le terrain du roman, que Manet me fait penser, avec son art du fragment, de l'ellipse, de la déliaison. Précisément, il découpe, il recompose, il supprime tout ce qui pouvait relever des recettes de la peinture d'histoire pour arriver au maximum d'effets dans un minimum de forme.
Stéphane Guégan, que vous a appris le personnage du torero mort ?
Il m'a appris qu'il fallait savoir être noble en toute situation, qu'il fallait parfois même engager sa vie quand les circonstances l'imposent, et peut-être même faire belle figure dans la dernière minute de sa existence.
Comme si j'étais assis. C'était Personnage en personne, le 75e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Charles-Joseph von Trotta, créé par Joseph Roth dans La Marche de Radetzky.
De l'autre côté de ma vie.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production c'était Pascaline Bonnet, prise de son Delphine Baudet.
Tous les jours paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de la rue, mon paradis. Quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent pas être heureux, comme si j'étais assis là-haut.